Alexandra Planinic.
Un homme d'une soixantaine d'années en vacances en Iran avant de mourir dans une prison du pays, c'est ce qu'a indiqué hier le département fédéral des affaires étrangères. Ce ressortissant suisse se serait suicidé dans sa cellule dans une prison à l'est de l'Iran, incarcéré pour espionnage nucléaire, selon les accusations de la justice iranienne. Mais beaucoup d'éléments restent encore flous, c'est pourquoi la Suisse exige du gouvernement iranien qu'il lui transmette aujourd'hui des informations détaillées sur les raisons de cette arrestation et sur les circonstances du décès. Wally Maurer, très critique vis-à-vis du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur le rachat de Crédit Suisse par UBS. L'ancien conseiller fédéral déplore le fait qu'il soit le bouc émissaire et rejette ainsi les reproches qui lui sont faits dans cette affaire. Dans une interview accordée aux journaux de Tamedia aujourd'hui, Wally Maurer estime que le mandat de la commission occulte la période décisive qui a précédé l'aggravation de la crise chez Crédit Suisse. Le Zurichois considère que la situation était extrêmement dangereuse depuis la crise du Covid. Une participation record des milieux économiques et politiques est attendue au WEF qui se déroulera du 20 au 24 janvier à Davos. C'est ce qu'indique son président Börge Brende. Des représentants de la future administration du président américain élu Donald Trump sont annoncés. Mais Börge Brende ne peut révéler qui fera le déplacement pour des raisons de sécurité et de confidentialité, explique-t-il dans le journal Blick de ce samedi. Cette année, le WEF est placé sous le slogan « Collaborer pour l'ère de l'intelligence ». Cette édition 2025 se penchera ainsi sur le rôle de la connaissance et de la technologie dans un contexte géopolitique difficile. Les deux boîtes noires du Boeing de Jeju Air qui s'est écrasé le 29 décembre à Muan en Corée du Sud ont cessé d'enregistrer 4 minutes avant l'accident. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministère des Transports sud-coréen. Les autorités qui enquêtent sur l'accident prévoient de déterminer ce qui a provoqué l'arrêt des enregistrements. Au total, 179 passagers sont morts. Seules 2 personnes ont survécu à l'accident. La pire catastrophe aérienne survenue en Corée du Sud à ce jour. En ski alpin, la Coupe du Monde masculine fait étape à Adelboden et les Suisses seront les hommes à battre. Désormais leader du classement de slalom, Loïc Meyer visera aujourd'hui son premier succès de l'hiver. Le skieur des Rémans a enchaîné 4 podiums en 5 slaloms disputés jusqu'ici le dernier mercredi sous les projecteurs de Madonna di Campiglio où il a terminé 2e. Il sera aussi l'un des grands rivaux de Marco Odermatt demain en géant. Les femmes seront quant à elles en lice à Saint-Anton en Autriche pour une descente aujourd'hui et un super G demain. La Ragoute Bérami porte pour l'heure les principaux espoirs suisses en vitesse. Et un mot sur la météo, passage un temps ensoleillé aujourd'hui, bise modérée autour du Léman en deuxième partie de journée, en pleine maximum 2 degrés et jusqu'à 5 dans la vallée du Rhône. Demain, du soleil malgré quelques bancs de stratus sur le plateau et le nord du Jura est probablement en Valais. Une bise modérée soufflera sur le plateau et sera plus forte sur l'ouest lémanique. Température maximum demain 2 degrés.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
L'écho des pavanes, Benoît Perrier.
Bonjour et bienvenue à vous. Bonne année, c'est peut-être le dernier moment pour vous souhaiter un bon 2025, à tout le moins une année musicale en effet. C'est le premier numéro de l'Écho des Pavanes cette année avec un riche programme. Alors dans l'ordre, on va évoquer par le menu le Boléro de Ravel. En effet, 2025 est une année Ravel. Le compositeur français est né en 1875, il y a 150 ans. Et son boléro n'en finit pas de faire des petits, c'est l'angle que nous allons explorer avec nos invités ce matin. J'aurai ensuite des billets à vous faire gagner, ce sera environ vers 11h pour Salomé de Richard Strauss, opéra qui commence le 22 janvier prochain au Grand Théâtre de Genève. Enfin, on conclura ce parcours avec Vincent Zanetti et surtout avec un percussionniste franco-libanais absolument renversant. Il s'agit de Wassim Alal, qui est membre d'un gamelan bien particulier. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h30. José Moreno et son assistant réalisent cette émission. Bonjour David Christoffel.
Eh bien bonjour Benoît Perrier.
Il y a un boléro qui commence. Vous êtes dans le studio de la RTS à Paris. et on va parler ensemble du Boléro de Ravel. Alors là, je vous demande à toutes et tous de vous arrêter 10 secondes. C'est Ravel lui-même qui dirige l'orchestre des concerts Lamoureux dans cette version. Le Boléro de Ravel, créé en 1928, à l'honneur d'une exposition à Paris à la Philharmonie qui dure jusqu'au 15 juin, en cette année Ravel 2025, exposition qu'on va d'ailleurs visiter tout à l'heure avec vous, David Christoffel, et avec la musicologue Lucie Caillas. Et on a un angle dans cette émission ce matin, c'est que le Boléro n'en finit pas, ne s'arrête pas. Près de 100 ans après sa création, il continue à faire des petits, on le joue, on le chorégraphie, on l'utilise au cinéma, on le reprend, et le feuilleton légal de ses droits continue. Pour en parler avec nous ce matin, David, vous êtes très bien accompagné à Paris.
Tout à fait, je suis en compagnie de la chorégraphe Dominique Brun, qui est connue pour son travail sur les ballets russes, pour avoir fait une version du Sacre du Printemps au plus près des sources laissées par Nijinsky, qui a donc aussi des affinités avec Nijinska et donc avec Ida Rubinstein, qui a créé le Boléro. Bonjour Dominique Brun.
Bonjour.
Vous avez vous-même fait votre Boléro avec un solo de François Chéniaud.
Absolument.
Qu'on pourra voir le 6 février prochain au CCN d'Aix-en-Provence et qui avait justement été créé à la Philharmonie de Paris.
Oui, en 2016.
Oh. Et je suis...
Pardon, 2019.
En 2019. Oui. Et je suis en compagnie aussi de Fabien Colahal. Bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes l'auteur-réalisateur de la série et du documentaire Mais qui a volé le Boléro, qui raconte, on pourrait dire, toute la saga juridique qui a suivi le 1er mai 2016, le jour de l'entrée du Boléro dans le domaine public. Vous nous ferez tout à l'heure aussi des révélations sur cette affaire qui, elle-même, comme le Boléro, n'en finit pas.
Et le Boléro, à la base, c'est un ballet, donc c'est une œuvre collective, ça va être très important dans la discussion qu'on va avoir ce matin. Dominique Brun, dans le cadre de vos recherches, notamment pour votre spectacle, vous vous êtes focalisé sur Ida Rubinstein, la personne qui a fait la commande à Ravel du Boléro. Qu'est-ce que vous avez trouvé qu'on ne savait pas jusque-là sur cette personne ?
En fait, je me suis surtout intéressée à la chorégraphe, donc Bronislava Nijinska, à qui Ida Rubinstein, la commanditaire, a finalement demandé d'écrire la danse sur la musique de Ravel. Mais c'est vrai que pour l'exposition Boléro, j'ai aussi une entrée dans le catalogue qu'on m'a attribuée sur la figure tout à fait singulière d'Ida Rubinstein, que je ne connaissais que peu, si ce n'est comme beaucoup de gens, c'est-à-dire sur le mode d'un personnage très excentrique, très extravagant, alors qu'en fait j'ai découvert une danseuse très très touchante, très magnifique, enfin qui m'a beaucoup touchée effectivement.
Mais elle était pour quelque chose. Pardon, oui, elle était pour quelque chose dans le style du Boléro, dans la demande de la référence à l'Espagne par exemple ou...
Ça c'est difficile de le dire, je pense que ça a été un dialogue à la fois, elle voulait quelque chose d'espagnol puisqu'elle a vraiment clairement demandé à Ravel d'aller dans ce sens, elle l'a demandé aussi à Bronislava et à Benoît qui a signé donc les décors et les costumes du Boléro. Pour Bronislava, je crois qu'il y avait vraiment cette idée cette idée de table qui est arrivée très vite avec l'idée que ça se passe sous un très grand abat-jour. Il y avait un critique qui s'appelle Levinson qui disait qu'il y avait un petit peu d'Espagne autour de cette grande table. Et en fait, c'est elle qui met en avant donc une chorégraphie qui vient justement mettre en valeur Ida Rubinstein, qui va danser de manière très répétitive et puis qui va susciter chez tous ces hommes qui la regardent autour de la table le désir de monter, de se battre pour elle et finalement de la courtiser et enfin de l'emmener, de la porter au nu. C'est-à-dire qu'elle devient en quelque sorte l'élu du Boléro.
Il y a une magnifique photo dans le catalogue, une photo en noir et blanc où on voit une danseuse sur cette table et autour il y a effectivement des hommes avec des bicornes et des costumes un peu hispanisants et on voit qu'il y en a un d'ailleurs qui a déjà un pied sur cette table et cette table on la retrouve dans la chorégraphie de Maurice Béjart du Boléro, qui est extrêmement célèbre. On va en parler, mais avant j'aimerais qu'on écoute celui qui est aujourd'hui directeur artistique des ballets Béjart Lausanne, c'est Julien Favreau. Il a dansé longtemps dans la compagnie de Maurice Béjart, il en était d'ailleurs étoile à un moment, et le 6 avril 2012, voilà ce qu'il avait à dire sur cette très célèbre chorégraphie du Boléro.
Alors j'ai lu une fois dans un livre de Maurice que Maurice disait du Boléro que en fait c'est comme une mise à mort, que la personne qui est sur la table quand ça commence, il ou elle sait déjà qu'il va mourir, et donc du coup c'est les garçons qui arrivent comme ça, il y en a deux, il y en a quatre, il y en a six, il y en a huit, à la fin il y en a une vingtaine. Et en fait, c'est comme si voilà, la mort se rapproche et devient de plus en plus oppressante, comme ça. Et donc, du coup, la personne qui est sur la table, elle, dès le début, elle sait qu'elle va mourir. Et donc, du coup, c'est quelque chose c'est une fatalité. Donc, avant de mourir, je me dis, bah voilà, je vais profiter pour jouer un peu avec cette mort. Et donc, il y a un espèce de jeu de séduction, pas forcément de séduction, mais c'est plutôt un jeu. C'est difficile à exprimer, mais sachant que je vais mourir, eh bien, je joue un petit peu avec eux avant de mourir, quoi. Donc, et puis, j'essaye de donner des nuances. Ouais, je sais pas, c'est pas évident pour moi d'en parler, en fait.
Dominique Brun, cette idée du sacrifice, quand vous-même vous avez chorégraphié le Boléro, vous deviez vous en libérer ou au contraire prolonger cette tradition qui apparemment est antérieure à Béjart.
Oui, c'est vrai que il y a une dimension extrêmement sensuelle dans le Boléro que tout le monde note à la fois dans la musique et dans la danse. C'est vrai aussi que il y a, en tous les cas pour Bronislava Nijinska, le fantôme du Sacre du printemps de son frère Vaslav Nijinsky, qui a créé en 1913 sur la musique de Stravinsky le Sacre du printemps. Et évidemment dans le Sacre du printemps, dans la deuxième partie, on assiste à une danse sacrale dans laquelle effectivement l'élu finalement va être portée au nu une fois qu'elle aura dansé jusqu'à la mort. Et donc dans le Boléro, je dirais que pour moi il y a un lien très étroit entre Eros et Thanatos, et que finalement on ne va pas véritablement jusqu'à porter à bout de bras, ce qui était le cas dans la chorégraphie de Bronislava, la première chorégraphie de 1928. Effectivement, les danseurs montent sur la table et portent la danseuse à bout de bras. C'est pas le cas chez Béjart, mais on voit bien que malgré tout cette tradition-là, il la reprend aussi, ou en tous les cas, il en nourrit ses interprètes.
Le Boléro donc vit par la danse, on l'entend, Dominique Brun, et le Boléro a été maintes fois repris. C'est vraiment ce qu'on essaye de dire ce matin, c'est que c'est une œuvre qui n'en finit pas d'avoir une descendance. Ça a même donné lieu à une reprise en reggae. C'est d'ailleurs l'une des choses qu'on entend dans l'exposition, n'est-ce pas, David Christoffel? On y entend plein de boléros différents. Et donc Frank Zappa, iconoclaste s'il en est, et aussi grand amateur de musique savante et compositeur de musique savante, en a livré sur scène la version suivante en 1988.
Thank you.
devait être quelque chose quand même d'être dans une salle ou un stade en 1988 et de voir Frank Zappa, ses drôles de machines et ses drôles d'instrumentistes reprendre le boléro de Ravel et savoir qui possède le boléro de Ravel, qui a le droit de le jouer est quelque chose de ma foi assez compliqué. Donc on a parlé chorégraphie avec Dominique Brun, le fait que le boléro soit à la base un ballet est central dans la dispute légale qui s'ensuivit. On va en savoir plus avec Fabien Collat, l'auteur de Qui a volé le boléro de Ravel. On va lui donner la parole à Paris, mais pas avant d'avoir entendu un tout petit extrait du 4e épisode de sa série.
Janvier 1958, Édouard, le frère et unique héritier de Maurice Ravel, a cédé sa villa de Saint-Jean-de-Luz à Jeanne Taverne, sa masseuse, et lui a donné procuration sur tous ses comptes. À Paris, René Domange, l'éditeur de Ravel, s'inquiète de l'influence grandissante de Jeanne Taverne. Un gala est donné à l'Opéra Garnier pour le 20e anniversaire de la mort de Maurice Ravel. Édouard, son frère, en est l'invité d'honneur. Ce soir-là, il promet de léguer 80% de ses droits à la ville de Paris. Trois jours plus tard, une réception est donnée à l'hôtel de ville. La promesse de donation est signée dans le cabinet du préfet. Et Édouard reçoit la médaille d'or de la ville de Paris. Mais revenu à Saint-Jean-de-Luz, Édouard se ravise. Il prévient Domange. Il veut faire de Jeanne Taverne sa légataire universelle et il ne donnera pas un sou à la ville de Paris. Et il avertit, il porte plainte pour captation d'héritage. Domange réplique, vous êtes fort heureusement en possession de toutes vos facultés, la promesse de donation n'est donc pas susceptible d'être entachée d'un vice de consentement.
Un boléro qui crée une série documentaire et un projet qui vous occupe, Fabien Collat, depuis de nombreuses années, qui a volé le boléro de Ravel. La question de savoir si le boléro est dans le domaine public ou non occupe les tribunaux français notamment, même si il est dans le domaine public de fait et il est aussi depuis le 1er janvier dans le domaine public états-unien. Fabien Collat, qui sont aujourd'hui les ayants droit de Ravel ?
Les ayants droit de Maurice Ravel, c'est d'abord Evelyne Penn de Castel, qui est la fille de Georgette Taverne, deuxième épouse d'Alexandre Taverne, qui était le mari de Jeanne Taverne, qui était la masseuse d'Édouard Ravel. Parce que Édouard Ravel et son épouse ont eu en 1954 un grave accident de voiture et ils avaient besoin de soins constants. Ils ont donc fait appel à une masseuse. Et il faut croire que cette masseuse a pris sa place.
Et comment est-ce que vous pouvez dire, c'est quand même la question qui donne le titre de votre documentaire, qui a volé le boléro de Ravel ? Pourquoi ce terme aussi fort ?
On a pu me le reprocher, surtout la succession Ravel. Mais je réponds souvent, mais qui a volé le boléro de Ravel ? Tous les artistes.
Mais il y a donc ce phénomène curieux qui est, on vient de le dire, mais que les ayants droit sont apparentés à Ravel par plusieurs personnes finalement interposées et sont en tout cas pas les rejetons que Ravel n'a pas eu.
Ah ben c'est sûr. Tout ça a fait l'objet d'un procès en captation d'héritage qui a duré 10 ans. Qui a ensuite été, il y a eu un appel, puis une cassation. Qui a porté plainte ? C'était la famille suisse de Maurice Ravel, Marc Perrin, qui était le fils d'Alfred Perrin, le cousin de Maurice Ravel, et donc Marc, qui était violoniste, et Marc Perrin, qui était tromboniste à l'orchestre de Suisse romande, et sa sœur, Marcel, ont intenté un procès pour captation d'héritage aux ayants droit de Ravel, en l'occurrence la famille Taverne.
Et pour vous...
Et ce procès en captation d'héritage a été effectivement perdu.
Et ensuite, en 2016, le Boléro rentre dans le domaine public et c'est là que commence pour vous une entreprise qui va durer jusqu'à aujourd'hui, puisque les ayants droit s'opposent à cette entrée dans le domaine public en arguant, et là on retrouve la chorégraphie, que comme c'est un ballet, c'est une œuvre collective et que les droits ne s'éteignent pas après que ceux de Ravel devraient s'éteindre, c'est ça?
Moi, je me suis intéressé à cette histoire dès 2014. Mmh. Et en 2014, j'ai commencé mon enquête. À l'époque, personne ne voulait répondre à mes questions. Je parle ni de la SACEM, ni la succession Ravel. J'ai donc fait mon enquête de mon côté. Et l'idée, c'est que cette série et ce documentaire soient diffusés à 0h le 1er mai 2016 lors de son entrée dans le domaine public en France. Et dès que la série a été diffusée, nous avons appris que la succession Ravel, alliée à la succession Benoît...
Donc Alexandre Benoît, décorateur du Boléro d'origine.
Exactement, décorateur et créateur des costumes, un ancien des ballets russes, que ces deux successions attaquaient la SACEM, enfin demandaient à la SACEM plus exactement de mettre d'ajouter le nom d'Alexandre Benoît sur le bulletin original du Boléro qui avait été déposé par Maurice Ravel à la SACEM en 1929.
Donc là, il y a un enjeu de qui sont les déclarants, mais aussi qui est la société qui répartit les droits de cette œuvre. Puisque si c'est la SACEM, alors ça n'est pas une chorégraphie, puisque la chorégraphie relève d'une autre société d'auteurs, d'ailleurs plus ancienne, qui est la SACD.
Tout à fait. Mais là, en l'occurrence, on parle de l'œuvre symphonique.
Oui, mais sur laquelle Alexandre Benoît n'a rien fait.
Ben non.
Et donc les ayants droit se retournent contre la société de droit d'auteur qui est la SACEM, et en 2024, la justice...
Alors d'abord, la SACEM refuse.
D'accord.
Près de 90 ans après, 9 décennies après, d'ajouter le nom d'Alexandre Benoît sur le bulletin original du Boléro. Et à partir de là, en 2018... La succession Ravel, épaule la succession Benoît, on ne sait pas qui a commencé, qui est le plus intéressé, mais en tout cas, en 2018, attaque la SACEM devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Pour des raisons de Covid-19, puis de pièces complémentaires ajoutées par les différentes parties, le procès n'a eu lieu que l'année dernière, le 14 février 2024. Et la décision des juges a été rendue le 28 juin de l'année 2024. Et les héritiers, les différentes successions ont été déboutées de toutes leurs prétentions. Elles ont été condamnées à verser, si je me souviens bien, 100 000 euros à la SACEM. Au nom de l'article 700 du Code de procédure civile. Et par ailleurs, Evelyne Penn de Castel a été condamnée pour abus de droit moral à verser 1 euro symbolique à la SACEM.
Pendant qu'on est dans les questions de sommes, ça rapportait combien, quand ça n'était pas encore dans le domaine public, aux ayants droit, chaque année?
Pendant de nombreuses années, il faut quand même se représenter que le Boléro était une des œuvres les plus exportées dans le monde.
Oui. Donc les plus lucratives en termes de droits.
Les plus lucratives, on dit que ça se situe entre 1 million, 1 500 000 dans ces eaux-là. Depuis que c'est entré dans le domaine public, les chiffres se sont naturellement abaissés et officiellement, ils sont de l'ordre de 135 000 euros
qui sont des droits américains en fait.
Par an. On peut dire ça comme ça, puisqu'effectivement, le Boléro était dans le domaine public en France.
Jusqu'à la semaine dernière.
Voilà, jusqu'à la semaine dernière. Enfin, elle était dans le domaine public en France et en Europe, mais pas aux États-Unis, puisque ça n'est pas le même droit.
Et il y a eu encore un rebondissement.
Et oui. Les juges ont débouté les successions Ravel et Benoît. Et nous avons attendu. Et parce que les parties, enfin je veux dire les parties attaquantes, avaient 2 mois pour faire appel. Donc il fallait attendre. Ça a été un peu plus long que prévu pour tout un tas de raisons que il est inutile de décrire là. Mais en tout cas, nous venons d'apprendre que la succession Ravel et les successions Ravel et Benoît ont décidé de faire appel.
Donc la saga repart.
Avec un nouveau procès attendu à quel horizon ?
Je ne suis pas, je ne peux pas répondre à la place des juges, mais on dira que, enfin, j'imagine hein, que ce procès en appel se jugera plus vite que le procès en première instance. Mais je ne pense pas que nous aurons un résultat avant 2026, voire fin 2026.
Est-ce vous qui avez suivi ce dossier de si près, et vous le disiez déjà même avant 2016 et l'entrée du Boléro de Ravel dans le domaine public, est-ce que vous êtes quand même un petit peu surpris qu'on soit encore en train d'en parler un 11 janvier 2025 ?
Ah mais je suis absolument stupéfait. Comme le disait l'avocate de la SACEM, Maître Benazeraf, le 14 février 2024, tout cela est de la pure fiction. Et je peux dire que c'est une véritable réécriture de l'histoire. Et alors que nous sommes en 2025, c'est-à-dire cette année où nous allons célébrer les 150 ans de la naissance de Ravel, célébrer sa mémoire, il est toujours assez stupéfiant que ses propres, enfin que ses ayants droit l'offensent, sa mémoire.
On l'entend, Fabien Collal, donc la question des droits du Boléro est loin d'être réglée, ou peut-être que quand même on arrivera bientôt à la conclusion de cette affaire, mais on voit que le Boléro fait toujours des petits là dans les tribunaux. On parle de la postérité du Boléro de Ravel et surtout de sa capacité à créer du neuf, quelque part, pour une œuvre créée en 1928. David Christoffel, vous avez visité la semaine dernière l'exposition qui est ouverte à la Philharmonie de Paris jusqu'au 15 juin prochain. Vous l'avez visité avec la musicologue Lucie Caillas, qui est conseillère musicale de l'exposition. Et vous êtes revenu avec elle pour commencer sur la création de cette œuvre. Et on va voir avec Lucie Caillas que le Boléro crée aussi du discours sur sa fabrication, jusqu'à même proposer un gigantesque schéma de toute l'œuvre qu'on va progressivement visiter avec vous.
Il le fait en combien de temps, la partition ?
Ça prend 3 mois maximum.
Ouais. Donc, il lui est resté 3 mois pour composer, voilà. C'est ça.
Donc le fait est qu'on ne peut pas développer. Et donc ça ne développe jamais. C'est quand même ça le coup de génie, sans doute. Voilà. Ah bah oui, on peut raconter la petite histoire de cette partition-ci, puisqu'il y en a plusieurs. Celle-ci, c'est la partition au crayon, donc c'est une version antérieure qui se trouve à la BNF. Donc c'est pour ça qu'elle peut être ici. Mais si on cherche perfectionnisme, je peux te dire déjà que les barres de mesure de cette partition ont vraisemblablement été tracées avec une règle.
Et on a la règle. D'accord. Ah oui, parce que là, il y a une reconstitution du bureau de Ravel.
Cette règle, elle est en inch. Donc, est-ce qu'il l'a ramenée des États-Unis ? On ne sait pas, mais la largeur, c'est très exactement la largeur des mesures de la partition.
Ah oui.
Donc, il y a quand même ce côté artisan de la graphie, etc., qui présente là.
Et donc, c'est pour dire que c'est la même mesure qu'avant. Donc, la répétition naît de la règle ? Non.
C'est-à-dire qu'il a voulu calibrer ses mesures et qu'il se trouve que la règle avait le bon format. Ici, c'est autour de la création du Boléro. Ravel, qui n'est pas là en fait pour la création, parce qu'il est en tournée en Espagne, à Malaga, donc il arrive pour la dernière représentation. C'est assez révélateur de sa vie surmenée, au fond.
Oui, parce qu'il est partout à la fois.
Il est partout, il est à Oxford. Il le dit d'ailleurs dans cette lettre. Il est à Oxford pour être fait docteur honoris causa, il est à Malaga pour jouer. Et puis en même temps, il y a la première du Boléro. Et donc, il débarque pour la troisième représentation. Avec, pour petit commentaire que je trouve très intéressant, disons que c'était une très belle représentation, mais pittoresque, ce qui n'aurait pas dû être.
Donc, pourquoi ?
Parce que finalement, pour lui, c'est espagnol, mais c'est pas ça le,
ah oui.
C'est pas ça le nerf de la guerre. Donc cette mise en scène que tu peux voir, avec vraiment beaucoup d'espagnolades, les costumes traditionnels, les castagnettes, etc. Au fond, c'est peut-être pas ce que lui, il avait en tête. Donc là, nous pouvons jouer à mettre en regard deux schémas.
Ah oui.
Donc celui de Lévi-Strauss qui illustre cet article dans lequel il explique que le boléro est une fugue dépliée dans le temps. Mais on voit bien quand même très bien les entrées deux par deux des différentes mélodies.
Ça montre aussi comment Lévi-Strauss écoutait la musique.
Oui, comment il la comprenait, effectivement, d'une certaine façon. Mais finalement, je trouve que son explication, elle est quand même très complexe. Et elle est très basée fatalement sur la structure. Or, est-ce qu'il n'y a que la structure qui fait l'exception du boléro ? Moi, je pense que l'exception du boléro, c'est cet autre schéma aussi.
Donc, de Lucie Caillas.
Donc, c'est le schéma de la couleur.
Oui.
C'est-à-dire, c'est un schéma qui est en deux dimensions. Donc, il n'y a que deux dimensions représentables qui sont à la fois le rythme, la mélodie et la manière dont c'est orchestré. Par contre, ce qui est l'accompagnement qu'on peut voir dans le film initial n'est pas là parce qu'il aurait fallu une troisième dimension.
Oui, mais c'est pour commenter la différence de schéma, c'est que pour Lévi-Strauss, il y a 1A, 1B, 2A, 2B, et puis à nouveau après 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, et il n'entend pas, il ne notifie pas l'orchestration. Alors que.
Moi, ce que j'ai cherché à faire. J'ai cherché à montrer aux gens comment c'était calculé, justement.
Oui.
Et à vrai dire, avant de le faire, je savais que c'était un crescendo, mais je n'avais pas non plus conscience de la manière très millimétrée dont c'est construit. C'est-à-dire deux fois le thème 1, deux fois le thème 2, deux fois le thème 1, deux fois le thème 2. Toujours les deux mesures d'ostinato qui séparent toutes les entrées mélodiques, sauf quand on arrive à la fin, où tout se compacte.
Une condensation.
Et c'est le moment où il y a aussi la modulation, la seule.
Oui, tout le reste étant en do majeur.
Voilà, donc mon idée, ça a été ça, et de montrer que le crescendo, il se fait aussi bien sur les mélodies en faisant entrer les instruments, d'abord un par un, par deux, par quatre, et puis on repart, parce qu'en fait, c'est tellement long ce crescendo qu'on ne peut pas y aller directement. On fait entrer le trombone tout seul et on redémarre le crescendo côté mélodie. Mais côté ostinato aussi, c'est-à-dire que, curieusement, la caisse claire, elle joue de A à Z, mais la flûte qu'a fait la première mélodie, ensuite elle fait des notes répétées, elle reprend le fameux ostinato, puis il y a le basson, le cor, la trompette, etc. Et là, on s'aperçoit qu'à partir de là, les corps deviennent la base de l'ostinato, et que lui aussi, il est traité en crescendo, donc il y a cette espèce d'explosion dans les deux sens.
Si ce n'est que oui, c'est ça, le crescendo de l'ostinato est beaucoup plus subit, en fait.
C'est ça.
Oui.
Il arrive vraiment sur les trois dernières sections, alors qu'il couvre, on va dire, le reste du temps. Et puis, il faut reconnaître aussi que la fin, c'est faux, parce qu'à la fin, tout se mélange. Il n'y a plus de vraie séparation quand on est vraiment ici
oui.
Entre le rythme et les mélodies. Tout devient rythme, plus ou moins. Et puis il y a des glissandis de trombone en plus. Ben, finalement, un schéma, c'est fait pour comprendre et ça n'est pas le reflet parfait de la réalité.
Oui.
Donc c'est une simplification, mais qui est là pour éclairer. j'espère.
Lucie Caillas, conseillère musicale de l'exposition Ravel Boléro, que on peut voir à la Philharmonie de Paris jusqu'au 15 juin 2025, en cette année Ravel qui nous immergeait, donc Lucie Caillas, dans le schéma, la structure du Boléro, puisqu'on parle ce matin de la postérité de cette œuvre qui n'en finit pas de résonner, avec à Paris David Christoffel et nos invités, la chorégraphe Dominique Brun et le documentariste Fabien Collal.
Lévi-Strauss parlait donc du Boléro comme une fugue remise à plat. On entendait Lucie Caillas s'ajouter à ce schéma, ces repérages des thèmes, et bien le repérage des couleurs. Vous-même, Dominique Brun, pour en faire une chorégraphie, vous l'avez schématisé. Qu'est-ce que vous avez relevé dedans? Comment vous l'avez découpé?
D'abord, j'ai fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai effectivement identifié le fait qu'il y avait deux thèmes, et puis j'ai mis des couleurs sur les thèmes, et puis après, en fait, très vite, s'est imposé à moi le fait que je voulais contrer ce que Lucie Caillas appelle l'ostinato, qui est en fait plutôt l'injonction, je dirais, rythmique de la caisse claire, qui vient véritablement marteler systématiquement un même rythme, du début jusqu'à la fin, 169 fois. Et en fait, l'idée, c'était vraiment que la danse oppose une résistance à ça. Avec François Chéniaud, nous avons donc travaillé la structure en essayant d'être systématiquement décalé dans les motifs que nous pouvions proposer relativement à la structure proposée par Maurice Ravel. Et donc, c'était vraiment l'idée de faire divorce, en fait, parce qu'il y a quelque chose d'inexorable dans cette progression, de lui résister et, en fait, de faire jaillir, au-delà de la question d'Eros et Thanatos, plutôt une certaine forme de cruauté de cette injonction, en fait, de la caisse claire, cette manière dont systématiquement on a l'impression qu'on s'envole vers une espèce d'orgasme et que la danse vienne là, alors qu'elle représente le corps, s'opposer en fait à cette espèce d'orgasme musical. Elle résiste jusqu'au bout, jusqu'à faire quitter la scène finalement par le danseur avant la résolution finale. Et c'est la musique qui se débrouille toute seule, j'ai envie de dire, comme ça nous arrive à tous à chaque fois qu'il y a un orgasme. Il faut se débrouiller tout seul.
En même temps,
on est rappelé à soi, oui.
Quand il y a cette ostinato, donc il serait la métaphore quoi de la mort ou...
Oui, en tous les cas, de ce que Nietzsche appelait la dimension martiale de la musique, ouais. Guerrière finalement. Il dit, à chaque fois qu'on marche au pas, on fait de la musique, mais en même temps on fait la guerre. Enfin, il y a quelque chose avec cette idée que... Et la danse, c'est pas ça. Pour moi, c'est au contraire, il y a une dimension très subversive du corps et il s'agit pas systématiquement de coller à l'injonction musicale, mais plutôt de venir lui insuffler quelque chose comme une gravité ou au contraire une légèreté et de finalement la questionner, cette musique.
Une fois que ça fait 1 minute 30 déjà que vous nous montrez François Chéniaud qui essaye de s'arracher du devenir automate que semble demander la musique, vous faites quoi? Il reste 16 minutes.
Alors, il reste 16 minutes et donc l'idée c'est de faire jaillir quelque chose de la cruauté. Ouais. Alors cette cruauté, effectivement, ça a été difficile pour moi d'imaginer comment on allait la représenter, si ce n'est que on a travaillé autour d'une figure centrale qui est celle de la Argentina, qui est une danseuse flamenca du début du 20e, qui va beaucoup inspirer en fait toute la modernité à la fois en Espagne et en France, notamment Maurice Ravel effectivement, même si lui était déjà directement influencé par sa mère sur la question de l'Espagne. En tous les cas, il se trouve que cette figure de l'Argentina est aussi quelqu'un qui a collaboré donc dans L'amour sorcier. Donc elle vient en France, on la voit danser et probablement Ida Rubinstein s'en inspire. Et donc elle va être la figure pivot. On va à la fois évidemment convoquer François et moi des photographes, regarder la partition de Bronislava Nijinska de son Boléro, et par ailleurs aller chercher dans la danse buto en fait de l'après-guerre, donc une danse japonaise qui pose la question en fait de la ce qu'on pourrait appeler une espèce de chair écartelée, enfin une chair vraiment qui va être systématiquement dévorée en fait par possiblement par la guerre justement, et l'idée c'était de venir chercher en fait Hijikata par exemple, qui est un danseur buto, il égorgeait des poulets en fait au début début de ses premières chorégraphies, entre ses jambes, à un moment où il n'y avait pas de lumière. Donc il y avait vraiment une chose très subversive. Et dans la musique de Ravel, il y a pour moi une dimension très subversive. Et travailler sur la cruauté, c'était aussi essayer de faire revenir quelque chose de la subversion du corps et de dire, oui, le corps qui danse, c'est aussi un corps qui finalement touche à quelque chose de la mort et nous rapproche de quelque chose de la mort. Et donc ça a été le jaillissement en fait de gestes qui venaient faire surgir. Alors j'ai pas envie d'en parler pour déflorer finalement la chorégraphie, mais de faire surgir par le geste une forme, quelque chose qui s'apparenterait à de la chair et qui finalement serait comme expulsé du corps et qui nous voilà, qui nous pousse à regarder notre chair comme quelque chose de périssable.
Et qu'on peut voir au CCN d'Aix-en-Provence le 6 février à 20h.
Merci.
On l'entend avec vous, Dominique Brun, ce boléro qui est une scie, qui est entêtant. Je pense qu'une partie de vous qui nous écoutez ce matin, vous allez l'avoir en tête pour une partie du week-end. Cette œuvre si connue et qu'on croit justement connaître de A à Z, à l'envers, à l'endroit. Elle est extraordinairement fertile et elle continue d'avoir des avatars passionnants aujourd'hui. J'aimerais qu'on revienne un petit moment dans cette exposition Ravel Boléro de la Philharmonie que vous avez visité, David Christoffel, avec Lucie Caillas. Et vous parliez tout à l'heure de devenir automate. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire. Il y a une forte inspiration industrielle au Boléro.
Donc là, on arrive dans ce que Pierre appelle l'usine, hein, et qui du coup est sous l'égide du père de Ravel, qui est un ingénieur assez imaginatif et farfelu, puisque il a participé à la construction de lignes de chemin de fer Madrid-Irún, mais aussi d'attractions de foires, donc des espèces de le tourbillon de la mort, c'est une espèce d'automobile qui fait des loops. Bon, ça s'est très mal terminé, hein. Il y a eu un accident, etc. Donc il était à la fois vraiment scientifique dans l'âme, on va dire, avec tous ses moteurs et autres condensateurs, et puis très imaginatif. Et là, on a son portrait. Donc le portrait, comme le portrait des enfants, est réalisé par le frère du père, donc cet Edward John Ravel, qui vivait à Genève.
Et qui était peintre.
Et donc c'est grâce à lui, l'héritage de ce peintre, que Ravel a pu acheter le Belvédère en 1921.
D'accord.
Parce qu'en 1921, il n'était pas du tout fortuné. C'est-à-dire, la fortune est venue après le Boléro. Donc, les œuvres choisies pour l'usine, là, sont vraiment contemporaines. Et je trouve que ce léger est quand même magnifique pour montrer cette idée d'engrenage. Et on sait que Léger était allé en 1912 au Salon de l'aéronautique. Et c'est là qu'il avait commencé à se passionner pour la mécanique, en fait, qui apparaît ensuite dans presque tous ses tableaux. Du coup, on sait par contre, on ne sait pas quel élément mécanique aurait pu influencer le Boléro. Par contre, on sait sa fascination pour des paysages industriels.
Ouais.
Et ça, dès 1905, c'est-à-dire que ça ne commence pas avec le Boléro, ça commence bien avant. Il fait une croisière sur le Rhin avec Misiasser, suite à ses échecs au prix de Rome. Et il traverse la Roure et il est fasciné par le spectacle, littéralement, des usines, des cheminées. Alors, il y a une jolie citation qui est là-bas. Comment vous dire l'impression de ces châteaux de fonte, de ces cathédrales incandescentes, de la merveilleuse symphonie des courroies, des sifflets, des formidables coups de marteau qui vous enveloppent?
Alors ça, c'est dans une lettre à Maurice Delage de 1905.
Voilà, donc c'est pendant ce voyage sur le Rhin.
D'accord.
Donc ça nous montre que c'est pas une histoire récente, je veux dire, c'est pas autour des années 20. C'est quelque chose qui visiblement le fascine, et c'est avant Pacifique 231 d'une certaine
façon. Bien avant, puisque c'est 1923, voilà, je crois, Pacifique 231 de Neger.
Il a ça en tête. Du coup, quand il se rend aux États-Unis pour sa tournée en 1928, donc de janvier à avril, Le trajet qu'on lui fait faire est monstrueux, parce qu'il fait des allers-retours est-ouest dans tous les sens en allant jusqu'au Canada. Et à Détroit, il visite les usines Ford. Et pareil, il raconte à son frère par lettre comment c'est extraordinaire et en même temps terrifiant.
Et pourquoi on lui fait visiter une usine Ford? Ça va pas de soi?
Parce qu'à l'époque, en fait, c'était vraiment les usines nec plus ultra, avec les plus grandes, avec le plus grand nombre d'ouvriers. Et Ford faisait de la publicité pour ses propres usines. Donc par exemple, les photos qu'on voit là, celle de droite, Celle de droite, c'est une photo de publicitaire. Et d'ailleurs, il parle du boléro comme d'une machine, mais si on y réfléchit bien, qu'on lit la correspondance, les chansons Madécas aussi, c'est une machine. Donc oui, c'est la composition qui est une machine, au fond. C'est pas spécifiquement le boléro. C'est dans l'histoire des jeux, donc là c'est les tours de magie. Donc pareil, on voit que ce sont des bouquins
qui ont servi. Des livres qui racontent les tours de magie,
voilà,
ou les
magie
jeux de cartes.
Jeux de cartes, tours de cartes. Donc ce côté illusionniste que notamment même Debussy lui reprochait en disant ce que je n'aime pas, c'est son côté fakir qui fait des tours, etc. Je pense que lui, il aimait bien.
Il était entretenu, oui, c'est ça.
Il travaillait.
Mais en même temps, c'est Petite Magie Blanche. Ou tour de physique amusante, on est vraiment dans la magie scientifique. Quoi.
Oui, c'est ça, on est à la jonction des deux, à la jonction du merveilleux quelque part. Donc c'est ça qui est plaisant.
On est passé du sanglant d'Eros et de Thanatos au merveilleux et à la physique. Dans cette émission ce matin, on parle de la postérité du boléro de Ravel comme une sorte de machine à générer qui du discours, qui des procès, qui de la chorégraphie. Alors, pour ce qui est du cas français, le boléro de Ravel est dans le domaine public. Fabien Collal, vous n'êtes pas sans le savoir, vous qui avez consacré tout un documentaire à la question. Dominique Brun, vous qui êtes chorégraphe, eh bien vous avez utilisé un boléro. Néanmoins, comment est-ce que vous choisissez peut-être les versions qui ont accompagné qui votre spectacle, qui votre documentaire? Et si l'œuvre elle-même ne demande pas qu'on paye des droits, est-ce qu'il faut quand même payer des droits pour les enregistrements précis que vous auriez utilisés? Alors, Dominique Brun, Fabien Collal.
Oui, Dominique Brun, quand vous faites vous-même une chorégraphie, vous devez faire un bulletin de déclaration à votre tour.
Oui, absolument, absolument. Surtout, d'autant plus qu'on a travaillé avec l'ensemble Aedes et qu'on a fait faire par Robin Melchior une adaptation uniquement pour voix. Donc, voix, percussion et cymbalum, puisque nous avions deux formidables cymbalistes avec nous, cymbalomistes, je ne sais plus comment on dit exactement. Et sinon, j'utilise une autre version que j'adore parce que c'est une version où on voit Karajan qui est très très, enfin qui a au moins 75 ans, peut-être même un peu plus, qui dirige le boléro avec un seul doigt pratiquement, parce qu'il peut plus vraiment faire beaucoup de gestes. Et en fait, tout est là. Enfin, je trouvais que dans le minimalisme, il y avait quelque chose de, le tempo me semblait très juste. Et puis cette présence de son corps m'a vraiment encouragée à aller vers cette version-là aussi.
Fabien Collal, où est-ce qu'on en est côté succession Benoît pour argumenter qu'il y a encore des droits à en tirer alors ?
Bah, le principal argument de la succession Benoît, soutenu par la succession Ravel, c'est que Alexandre Benoît en aurait écrit le livret. Et c'est vrai qu'Alexandre Benoît, qui venait des ballets russes, a quand même écrit certains livrets de certaines œuvres. Ne serait-ce que La Bien-Aimée. D'ailleurs, on va en rester sur La Bien-Aimée parce que c'est quand même assez intéressant. Et si on regarde l'affiche de la première du Boléro le 22 novembre 1928 à l'Opéra, il y a deux autres ballets.
C'est le dernier, hein, le Boléro.
Voilà, c'est le dernier. Et juste avant, il y a la... Et les deux précédents, hein, plutôt, ont été effectivement co-écrits par Alexandre Benoît. Il en a écrit le livret. Mmh. Voilà. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la succession Benoît, enfin, les successions Benoît et Ravel se basent sur un carnet de bord, sur le carnet intime, si je puis dire, d'Alexandre Benoît. Et dans ce carnet, à un moment, alors que Ravel n'est pas encore rentré des États-Unis, il parle de d'auditions qui ont lieu chez Ida Rubinstein. Et on comprend, tout ça se passe sur une semaine. Et on comprend que, si on décode bien, qu'il est en train de préparer la bien-aimée, puisqu'il est en train d'écouter, il dit qu'il écoute des œuvres de Schubert, de Liszt, etc. Donc, on voit bien qu'il est en train de préparer un ballet. Et quel est le ballet dont qu'il prépare? C'est la bien-aimée, qui sera orchestrée par Darius Milhaud. Et alors, la dernière phrase de cette semaine, il dit, je cherche encore un solo pour Ida, et surtout, pour le final, une ronde infernale. Et la succession Benoît et la succession Ravel prétendent que cette ronde infernale, parce qu'il ajoute c'est pour la fin, que cette ronde infernale, c'est le boléro. Mais quand on cherche bien, quand on écoute bien la bien-aimée, on se rend compte que le final de la bien-aimée, c'est le grand galop chromatique de Franz Liszt. Et ce grand galop, c'est une danse de Vienne où les danseurs se mettaient en cercle et avançaient de plus en plus vite le long des murs des salles de bal, jusqu'à même des fois tomber tellement
tourner.
Eh bien, cette ronde infernale, il faut l'écouter. Bon, je ne l'ai pas amené, mais le grand galop chromatique de Liszt, c'est la ronde infernale dont parlait Benoît, et certainement pas le boléro dont parle la succession Benoît et la succession
D'accord.
Ravel.
Donc ça, c'est en fait votre contre-argument.
Ah ben, ce n'est pas seulement le mien, c'est ceux des gens qui connaissent l'histoire.
Oui, d'accord.
Et ce qui est intéressant, c'est que, comment dire, il se base aussi sur d'autres écrits d'Alexandre Benoît, qui est une biographie, une autobiographie en fait, qui s'appelle Réminiscence et qui est parue en 1941. Et Alexandre Benoît fait allusion à un voyage qu'il a fait à Saint-Jean-de-Luz, en 1918, où il a rencontré Ravel, et où ils auraient, ça on peut le croire, parlé de la possibilité de créer un ballet hispanique. Et il ajoute, comme on vient de le dire tout à l'heure, que naturellement, Ravel adorait l'Espagne et les ballets hispaniques. Et ils disent, mais ce ballet n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que la guerre a été déclarée dans les mois qui ont suivi. Donc, ce projet n'a pas eu lieu. Et la succession Benoît et la succession Ravel prétendent que ce ballet hispanique dont ils parlent, eh bien, c'est le boléro. Sauf que non. Parce qu'en 1941, Alexandre Benoît aurait pu dire « Nous avons créé le boléro ». Un projet de ballet hispanique, ça n'est pas forcément le boléro qui a été créé en 1928.
Mais on voit à quel point le fait que, et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là, Fabien Collal, parce que vous connaissez le dossier, que ça a inspiré d'ailleurs votre documentaire qui est lui-même une œuvre, mais aussi que vous êtes là, Dominique Brun, puisque vous êtes chorégraphe. On voit ce matin à quel point le fait que le boléro soit un ballet, et donc par essence une œuvre collective, permet toutes ces arguties légales de manière à en trouver un éventuel ou une éventuelle deuxième auteur qui permettrait un ainsi de faire perdurer son héritage. Le temps passe vite avec vous. Ce matin, on avait en guise de coda peut-être la volonté, David et moi, d'évoquer le Boléro de Ravel au cinéma. Et là, j'ai une question très ouverte. On se lance un petit peu vers l'inconnu. Mais Fabien Colahal, Dominique Brun, est-ce que vous avez des souvenirs de spectateurs, d'utilisation frappante de cette œuvre au cinéma ou à la télévision? Dominique Brun, peut-être, si ça vous inspire.
Je me rappelle, j'allais dire Béjart, mais non, Godard.
La lettre à Freddy Buach.
Godard qui fait
un portrait de Lausanne.
Voilà, portrait de Lausanne et qui, je me souviens très bien du geste où il relève en fait le bras du pick-up et donc il interrompt finalement le boléro de manière très péremptoire, enfin de manière inattendue, puisqu'on s'attend véritablement à ce que ça continue. Et voilà, ça c'est un de mes souvenirs du Boléro. Et puis évidemment, il y a quand même, justement pour parler de Béjart, que j'ai beaucoup admiré, s'il y a évidemment les uns et les autres de Lelouch, voilà ce qui me reste en mémoire. Et puis Kurosawa aussi.
Tout à fait.
Voilà, où il y a vraiment une utilisation tout à fait. Enfin, bon, je vous laisse.
Qu'il réinvente le boléro. Kurosawa.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait?
Il change les notes.
Ah, quand même. Ah oui, d'accord.
Mais il s'y intéresse. Enfin, il est très fidèle à l'œuvre quand même. Il change les notes.
Est-ce que c'est pour contourner les questions de droit qu'on a aussi réécrit des boléros pour le cinéma, justement? Je pense à Ray Agada, par exemple, non?
Fabien Colahal.
Fabien Colahal, oui.
Je comprends pas très bien la question.
Il y a des faux boléros de cinéma qui ont été écrits par des arrangeurs comme ça pour pouvoir justement le jouer en ne versant de droit que à l'auteur de cinéma et non pas à la succession Ravel avant 2016.
Je pense que dans ces cas-là, les droits reviennent à qui de droit. C'est juste.
Au pasticheur.
À Ravel.
Parce qu'en général,
ça dépend du degré de pastiche.
Ça dépend du degré de pastiche. On sait qu'en général, ils sont très très forts quand ils sont bien outillés pour pouvoir déloger les pastiches.
Non, c'est juste une réinvention, mais je pense que les droits ont été fidèlement, revenus à l'auteur.
On l'entend, le boléro de Ravel est fertile là au cinéma. Donc, vous dire que qui a volé le boléro de Ravel, cette série documentaire de Fabien Colahal qu'on vient d'entendre est visible sur Internet, vous la trouverez. Fabien Colahal, vous travaillez à un ultime épisode?
On va voir. Ça sera peut-être la résolution finale.
Et quant à Dominique Brun, donc votre boléro, un boléro est visible à plusieurs endroits en France pendant cette saison. Est-ce que vous espérez l'amener de ce côté-ci de la frontière? Puisque moi je vous parle depuis Lausanne.
Avec grand plaisir. C'est une pièce qui est très courte, donc qui est souvent nécessaire. Il est nécessaire de la marier avec un autre programme. Et c'est vrai qu'elle avait été pour moi un contrepoint au spectacle Les Noces que j'avais travaillé sur Bronislava Nijinska à partir des archives qui sont conservées à la librairie du Congrès à Washington, donc qui sont le fond Bronislava Nijinska, donc la danseuse des ballets russes qui donc a repris le flambeau justement pour le boléro.
Les prochaines dates avec François Chaillot, donc c'est, je le disais, le 6 février au CCN d'Aix-en-Provence, il y aura au CNDC d'Angers le 15 mars à 20h30, à l'Opéra National de Bordeaux, non, au CNDC aussi de Bordeaux le 21 mars, et puis à l'auditorium de Vincennes dans le cadre de la Biennale du Val-de-Marne le 22 mars.
Absolument. Alors je crois que c'est le CDC pour Bordeaux, ça n'est pas le CDC.
C'est un centre de danse contemporaine hasard
de
rêve.
En tout cas,
ça c'est sûr.
Voilà. En tous les cas, ce sont des lieux très très actifs et qui nous ont invités à proposer le boléro avec François Chaignot. Donc. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce projet boléro, il a aussi fait l'objet d'une transmission Ballet de Lorraine avec deux danseurs, Nathan Gracia et Laure Escoffi. Et du coup, voilà, j'aimerais bien, effectivement, c'est une pièce que j'imagine.